Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Libero per il traversone pericoloso, amore! Orsic! Pirlo, ancora Pirlo, di tecco, tiro! Grosso! Grosso!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pépé, le podcast 100% foot italien. Je suis évidemment toujours en compagnie de Guillaume Maier-Pacini. Salut Guillaume.
Bonjour Monsieur Yann Crochet, bonjour tout le monde.
Guillaume, aujourd'hui nous allons évoquer le changement d'entraîneur à la Roma avec le départ de José Mourinho et l'arrivée de Daniele De Rossi dans une saison, ma foi, très compliquée pour le club romain, mon cher Guillaume.
Oui.
C'est peut-être la première chose qu'on va évoquer, mais avant tout ça, n'oubliez pas de vous rendre sur calcioepp.shop, la boutique du podcast Calcioepp avec des affiches en aluminium et des posters en papier, en vente évidemment, et il y en a beaucoup, beaucoup sur le foot italien. Vous avez sur la Juve, sur l'Inter, sur le Milan, sur la Roma, le Napoli...
La sélection,
ouais. Évidemment, bien sûr. On célèbre les années 80, 90, 2000 du football italien avec des noms qui nous ont fait rêver. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur calcioepp.shop. Et puis, il y a aussi des affiches sur le football européen de manière générale avec des clubs français, des clubs anglais, des clubs espagnols, des clubs allemands, etc. etc. Guillaume, on retourne dans la cité éternelle. Qui n'a pas été éternel pour Mourinho, puisque José Mourinho, ça a été la grosse annonce hein, de ce début de semaine,
oui,
Guillaume. Surprenant, pas surprenant, on l'évoquera peut-être tout à l'heure, mais je te propose de commencer juste par deux, trois chiffres, comme ça, ouais. Pour bien planter le décor. Tu en as noté toi aussi, donc comme ça, tu vas me compléter. Juste, on va prendre la saison actuelle. Hein. La Roma est 9e de Serie A à 5 points de la 4e place. Je rappelle quand même que c'est l'objectif du club hein, cette saison. Ça a été clairement annoncé par les propriétaires, notamment d'ailleurs à l'entraîneur qui était José Mourinho. La Roma est qualifiée pour les barrages d'Europa League après avoir terminé à la 2e place de son groupe derrière le Slavia Prague. La Roma a été éliminée en quart de finale de la Coupe d'Italie, défaite 1-0 contre la Lazio. Donc, pas une défaite. Anodine, loin de là. Et puis juste dans le bilan de José Mourinho, on va tout mettre ensemble, puisqu'il n'a pas fait que cette saison à la Roma. Il en a fait 2,5, une victoire en Conference League. C'est d'ailleurs le seul trophée européen de la Roma. À côté de ça, il n'a jamais dépassé les quarts de finale de la Coupe d'Italie. Il n'a jamais atteint la 4e place. Et donc, il n'a pas fait jouer la Ligue des Champions à la Roma, alors que c'était un des objectifs. Il a gagné un derby sur 6, toutes compétitions confondues. Guillaume, quel chiffre tu voulais rajouter à tout ça?
Écoute, on va prendre un aspect un peu plus financier, Johan, quand même, parce que tu le sais, la Roma demeure dans une situation délicate, hein, toujours surveillée quand même par le fair play financier. Thiago Pinto pourrait en parler mieux que moi. Mais moi, déjà, j'ai le chiffre du salaire. Donc, il est resté 2 ans et demi, on le sait, avec un salaire assez important. Donc, c'est le site, tu le connais, Johan, Catch Finance, très sérieux, qui a fait le calcul global des 2 ans et demi de Mourinho à la Roma. Donc, si on prend le salaire net, les bonus de victoire, comme je l'ai dit, de la Conference League, si on prend aussi le Decreto Crescita qui permet un peu de réduire la taxation, on est quand même en 2 ans et demi sur 28 millions d'euros de dépenses pour le salaire du Special One. Et en plus, Johan, le même site, Catch Finance, a calculé, tu sais, le coût par point gagné sur les 3 saisons, enfin sur les 2 saisons et demie de coût de Mourinho. Donc, dans les millions, il y a le salaire global, on va dire, des salariés de la Roma, le salaire de l'entraîneur, du staff, le coût des prêts, le coût de l'effectif. Tu vois, c'est vraiment le coût, on va dire, de fonctionnement du club. Donc, en 2020-2022, on est sur 3,66 millions d'euros par point glané. En 2022-2023, on est sur 3,19 millions d'euros par point glané. Et en 2023-2024, du coup, sur cette première partie de saison et avant que son licenciement soit acté, on est sur 3,66 millions d'euros par point glané. Donc, la seule équipe qui fait pire, on va dire, sur ces dernières années, c'est la Juve, qui a un peu plus de 5 millions. Donc, voilà un peu le contexte financier, parce que avoir Mourinho, c'était aussi payer un gros salaire pour la Roma. 28 millions d'euros, Johan, sur 2 ans et demi, ça reste quand même colossal.
Puis je vais rajouter quand même un dernier chiffre qui me revient en tête sur les entraîneurs de la Roma qui ont disputé au moins 50 matchs de championnat. José Mourinho a la plus faible moyenne de points glanés par match en championnat depuis 1994-95. Donc c'est pas un chiffre qu'on attendait quand José Mourinho est arrivé. Et Guillaume, pour faire un petit peu le tour de ce qu'a apporté ou ce que n'a pas apporté José Mourinho, tu me diras, à cette Roma. Je te propose de reprendre la feuille de route qui avait été donnée par les propriétaires, la famille Friedkin, notamment Dan Friedkin, à José Mourinho quand il arrivait. Il y avait plusieurs éléments. Alors, on a déjà répondu en partie à certains, puisque dans le premier élément, il y avait évidemment de se qualifier de manière plus régulière à la quatrième place, enfin, au moins être dans les quatre premiers, pas forcément la quatrième place. Mais atteindre la Ligue des Champions, il ne l'a jamais fait. La deuxième élément sur la feuille de route, c'était d'être performant sur la scène européenne, dans le sens où, pas forcément gagner un trophée, mais asseoir un petit peu plus la réputation de la Roma à l'échelle européenne. Et ça, il l'a plutôt réussi, puisqu'il a gagné une Conference League. Alors, on peut toujours dire, hein, c'est la Conference League, c'est que la Conference League, etc. Hier soir, alors on enregistre, on est jeudi 18 janvier. Hier soir, j'étais invité de la Fiera del Calcio, qui est une émission sur Twitch. Et je retiens le même discours aujourd'hui. C'est que on peut dire que c'est une petite coupe. Et en soi, c'est la petite coupe d'Europe. Mais je ne crois pas qu'en Italie aujourd'hui, on est dans un moment où on peut dire bon, on s'en fout des petites coupes. Tu gagnes rien à l'échelle européenne. Donc, même la plus petite des coupes européennes, quand elle se présente à toi, tu la prends et tu ne dis pas que c'est la toute petite coupe et que tu n'en as rien à faire.
Exactement.
Ça, c'est l'élément Coupe d'Europe. Et puis, donc ça, c'était purement comptable. Guillaume, il y a un truc sur lequel j'ai envie de t'entendre. Euh, un,
Dis-moi.
un des éléments, tu sais, lors de la fameuse conférence de presse de José Mourinho, quand il expliquait un peu ce qu'il allait amener à cette équipe de la Roma ou ce qu'on lui avait demandé, il avait fait tout un laïus sur la construction du club, la professionnalisation du club, amener de l'exigence, une mentalité de gagnant, voilà, avoir une Roma plus ancrée dans l'exigence au quotidien et un peu moins dans le laisser-aller, tu sais, qui est toujours un petit peu sous-jacent, à Rome. Comment tu vois cet aspect-là, toi?
Écoute, si on écoute le témoignage de certains joueurs, moi j'ai souvenir d'une interview de Lorenzo Pellegrini, le capitaine, je crois que c'était au Guardian il y a quelques mois, où lui, pour le coup, te disait que il y avait eu du progrès sur cet aspect-là, que Mourinho avait quand même, on va dire, eu un impact sur cette mentalité de gagnant. Et je pense qu'il y a une partie de vrai parce que tu connais très bien la Roma, Johan. Je ne suis pas certain qu'il y a quelques années, elle aurait été capable de gagner la C4. Même si tu as bien contextualisé le contexte qui entoure, on va dire, la petite sœur de la petite sœur de la Ligue des Champions. Mais il fallait quand même aller au bout. Et la Roma l'a fait. Ils ont frôlé quand même la victoire en Ligue Europa la saison dernière
C'est vrai.
contre Séville en finale. Donc, faire deux finales européennes de suite, c'est quelque chose que la Roma n'aurait pas imaginé il y a encore quelques années. Donc, sur les faits, on peut quand même voilà, créditer ça à Mourinho, c'est d'avoir donné une mentalité européenne et une mentalité presque nouvelle. Voilà pour la Roma, parce que faire deux finales européennes, c'est pas anodin pour un club comme la Roma qui n'était pas forcément habitué.
Ils en avaient fait que deux dans tout le reste de leur histoire, hein, de finale européenne.
Mais voilà, tu fais bien de le préciser. Mais voilà, si tu écoutes un peu les joueurs, il y avait forcément un impact. Et aussi, Johan, je pense que même au niveau, tu sais, des venues du mercato, par exemple, je ne suis pas certain que sans Mourinho, d'ailleurs, Dybala l'a dit, voilà, le fait que Mourinho soit là, ça avait beaucoup, beaucoup dans sa réflexion. Que Lukaku vienne aussi, c'était une grosse surprise enfin, l'été dernier. Et Mourinho a évidemment joué dans cette réflexion. Donc, il y avait forcément un aura autour de Mourinho qu'il est parvenu quand même à donner à Rome, déjà à la ville, du côté, on va dire, giallorosso de la ville, et aussi à ses joueurs. Donc, il y a quand même quelque chose de Mourinho là-dedans. Après, moi, Johan, ce que j'ai vu, et je pense que tu es aussi d'accord, c'est en 2 ans et demi, beaucoup, beaucoup de nervosité. Voilà, il y a. Si tu veux, j'ai l'impression que ces 2 saisons et demie résument très bien Mourinho. En fait, il y a eu des victoires voilà, sur la scène européenne, mais il y a eu beaucoup de nervosité, beaucoup de moments compliqués, beaucoup, beaucoup de com'. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment, on a eu en 2 ans et demi un échantillon de Mourinho. Mais pour revenir purement sur la mentalité, je pense qu'il y a une partie de vrai. Après, je ne peux pas te dire qu'à 100%, elle est parvenue vraiment à apporter cette exigence-là au quotidien, parce que le fait est quand même que la Roma était toujours sur courant alternatif au niveau des résultats, notamment en championnat, où tu dois avoir de la régularité et la Roma ne l'a pas eu. Parce que tu l'as dit, l'un des objectifs prioritaires quand même pour un club comme la Roma, c'était la C1. Et ils ne sont pas parvenus à y aller. Deux sixième places, en ce moment, c'est une neuvième, c'est trop peu. Et tu le sais, en championnat, il faut de la régularité. Et ça, la Roma ne l'a jamais eu parce que Mourinho a aussi eu du mal à apporter un certain calme et une certaine rigueur au fil des matchs. On sait que, par exemple, cette saison, à l'extérieur, la Roma a beaucoup, beaucoup de mal. Donc voilà, il y a une partie de vrai, mais il y a une partie aussi qui est un peu plus alors, je dirais pas fausse, mais qui discute plus, en tout cas. Je pense que voilà. Je pense que la vérité, vraiment, est dans le juste milieu. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais voilà. Je pense que voilà, c'est, disons que sur une balance, moi je pencherais un peu plus vers le non, mais voilà, je trouve quand même qu'il a apporté certaines choses que la Roma n'avait pas avant sa venue.
Alors, je suis un peu je vais dans le même sens que toi parce que si on regarde d'un point de vue purement extérieur, on aurait tendance à être plutôt dans le non parce qu'il y a plein de facteurs qui vont dans ce sens-là. Quand tu es censé amener cette dose d'exigence et de mentalité de vainqueur, de gagnant, je sais pas trop comment il faut le dire, mais tu as donné un premier point qui est le manque de stabilité, pas seulement émotionnelle, mais stabilité de résultat. D'un
Les deux
match à
sont liés, hein,
l'autre,
d'ailleurs,
voilà,
hein,
de
les deux, voilà,
régularité,
vraiment.
tu as tout à fait raison. De régularité, c'est extrêmement problématique. Et finalement, là-dessus, je trouve que on a retrouvé les mêmes défauts que sous Paulo Fonseca, que sous Di Francesco, que sous même Spalletti lors de son retour, que la deuxième saison de Rudy Garcia et la moitié de saison suivante encore de Rudy Garcia. Donc là-dessus, je trouve que d'un point de vue purement extérieur, je le retrouve pas en fait, cette mentalité-là. Le deuxième élément aussi, c'est que bah, contre les gros, eh ben, on a eu à peu près, peu ou prou, les mêmes difficultés qu'avaient eu tous les entraîneurs avant lui. C'est-à-dire que si vous prenez les résultats de la Roma contre les très gros, c'est-à-dire, alors selon les saisons, mais tu as toujours les trois Juve, Inter, Milan, évidemment. Et derrière, selon les saisons, tu rajoutes Napoli, tu mets toujours la Lazio puisque c'est un derby, donc c'est un concurrent extrêmement important. Et ensuite, tu rajoutes voilà, soit l'Atalanta, soit la Fiorentina, ou soit tu te fermes aux cinq, tu t'arrêtes aux cinq premiers que j'ai cités. Et là, c'est compliqué, Guillaume. Je disais tout à l'heure en préambule, une victoire sur six dans les derbies. Et quand tu es censé amener cette mentalité de vainqueur, je veux dire, il y a plein d'entraîneurs qui n'avaient pas cette tâche-là clairement sur leur feuille de route, qui sont venus à la Roma et qui avaient un bien meilleur bilan, pardon, dans les derbies. Je pense même à Rudy Garcia, par exemple. Rudy Garcia qui avait fait, je crois, cinq derbies et cinq fois invaincu. Il me semble que c'est quelque chose comme
Et
ça.
surtout à Rome, hein, surtout à Rome, Johan, hein. Pour
Exactement.
ceux qui ne le savent pas, le derby d'ailleurs, je pense, voilà, c'est un peu l'élément qui a fait basculer cette dernière semaine le destin de Mourinho. Mais le derby à Rome, c'est quelque chose qui est primordial. Voilà, on dit toujours que voilà, on préfère quasiment lâcher une saison et gagner les deux derbies. Voilà, le derby à Rome, c'est quelque chose vraiment qui est ancré et qui est très très ressenti. Donc le fait que Mourinho, tu l'as dit, t'as dit les chiffres. Voilà, et beaucoup de difficultés. D'ailleurs, la Roma n'a pas marqué dans un derby. Je crois que ça fait 5 ou 6 mi-temps. Enfin, c'est
Ouais, c'est
quelque chose
ça.
vraiment qui pèse sur son bilan. Et je pense que ça joue aussi dans le destin qu'il a attendu en ce début de semaine.
Et puis, Guillaume, pour continuer un petit peu sur José Mourinho, je voulais évoquer avec toi deux, trois autres sujets. On a fait un peu les résultats, on a fait un petit peu la feuille de route hein, qu'il avait. Il y a deux autres éléments au moins que je veux voir avec toi. Le premier, c'est sa communication. Et le deuxième, c'est le jeu. On va peut-être commencer par le jeu, histoire de rester un petit peu côté terrain. On sait ce qu'on va chercher avec José Mourinho, évidemment. Ce qui a été assez décevant, c'est que la première saison, tu avais eu des matchs de qualité. Tu avais eu des matchs où tu avais été protagoniste, où tu avais clairement mis en difficulté l'adversaire, mais pas simplement en défendant bas. En le mettant en difficulté par ta prise d'initiative, par ta prise de risque, par le jeu que tu pouvais proposer sur certaines séquences. Alors évidemment, ce n'est pas sur toute la saison, mais il y avait eu des vrais matchs référence. Le souci que je vois, c'est que plus les mois passaient, plus le niveau de jeu qui n'était pas extraordinaire déjà de base a chuté. Et on est arrivé à cette donc troisième saison en cours. Guillaume, les bons matchs de la Roma, toutes compétitions confondues, que ce soit contre des adversaires forts ou des adversaires faibles, il n'y en a même pas cinq.
Pour cette saison, tu veux dire?
Ouais, pour cette
La
saison.
saison, ouais, évidemment. Pendant que tu parlais, je calculais, tu sais, un peu la moyenne de points sur les gros matchs cette saison. Quoi, avant son départ,
Ils en ont
on
gagné
est
qu'un, je
sur.
crois, contre Naples, non?
Alors, j'ai calculé, enfin, je lisais l'AN, ça, tu sais, donc l'AFP en Italie, qui disait
Ouais.
6 points sur 24 à disposition.
Ouais, bah c'est ça.
Voilà,
Oui,
donc
parce
c'est
qu'il doit
pour
y
te.
avoir de mémoire, il y a victoire contre le Napoli, il doit y avoir un match nul contre la Lazio lors du derby aller qui était
Ouais.
catastrophique en termes de jeu. Il y a dû avoir un match nul contre la ouais, je sais plus. Enfin oui, mais je
En
crois
tout cas,
qu'il y a
c'est voilà,
une
en tout
seule
cas, c'est
victoire.
6 sur 24, donc voilà, c'était très peu. Mais au niveau du jeu, c'est compliqué de. Voilà, en fait, c'est vrai, le jeu était vraiment en déliquescence au fil des saisons et au fil des matchs. C'est vrai qu'aujourd'hui, la Roma était devenue une caricature d'elle-même. Je prends le dernier match de Mourinho. Même s'il n'était pas sur le banc, le match face à Milan dimanche dernier, qu'il a vu depuis la tribune. Tu sais, Yoann, moi j'ai préféré le match qu'avait fait la Roma la saison dernière, quand alors ils parviennent à faire 2-2, mais que celui-là. Enfin, vraiment, on avait du mal à comprendre ce qui était proposé, parce que voilà, on voyait bien que quand Dybala était là, bah, c'était un peu ballon pour Dybala, puis après on voit ce qui se passe. Mais là, vraiment, c'était. Voilà, c'était très décevant, c'était très vide. Hein. Ça manquait d'identité, ça manquait de panache, ça manquait d'idées, ça manquait de création, ça manquait de plein de choses. Alors après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais il n'avait pas l'effectif aussi qui suivait. Et moi, je le rappelle souvent quand même que la Roma, la troisième masse salariale de la Serie A. Donc, on ne dit pas que la Roma a le meilleur effectif de Serie A, mais moi, tu m'enlèveras pas de la tête, tu vois, qu'avec cet effectif-là, tu peux quand même faire mieux, du moins au niveau de la proposition de jeu. Aujourd'hui, moi, ce que je vois, ce que laisse Mourinho aujourd'hui, c'est une équipe très nerveuse. Il faut rappeler quand même que Mourinho et son staff, ils ont accumulé 29 cartons rouges en 2 ans et demi. Donc sur le terrain, ça s'est vite ressenti. On voit des joueurs qui pestent souvent, qui voilà, ils pestent aussi parce que ils sentent bien que dans le jeu c'est compliqué. Belotti l'a dit, hein. Il l'a dit après le match à Milan. Il l'a dit, mais voilà, on peut pas afficher ce niveau de jeu-là et même des résultats. Donc c'était vraiment voilà devenu difficile à défendre, même si Mourinho y parvenait quand même parce que voilà, on peut dire ce qu'on veut, Johan, mais à Rome, le fait est quand même que il a en 2 ans et demi, il a quand même, il est toujours parvenu à défendre son bilan ou du moins à avoir les gens de son côté. Preuve en est que l'Olympico était toujours plein à chaque match. Donc là-dessus, c'est un mérite qu'il a eu, c'est de défendre quand même son bilan et de toujours reposer la faute sur quelqu'un d'autre. Mais au niveau du jeu, au niveau du contenu et surtout dans un football, on en a parlé maintes et maintes fois dans ce podcast sur Johan. Dans un football aujourd'hui qui est plus moderne et qui est plus proactif quand même, on est sur une proposition qui a évolué au fil du temps. Voilà, c'était compliqué de voir la Rome aujourd'hui, c'était vraiment difficile de la regarder. T'avais pas envie de voir la Roma. Je comprends que les supporters qui sont vraiment, et même les Romains qui sont sur place, voilà, ils adorent Mourinho, ils le défendaient corps et âme, c'était un peu le, voilà, le guide, le leader, le chef d'armée. Mais vraiment, c'était compliqué. C'était vraiment devenu difficile à voir. Et c'était, voilà, quand j'ai vu certaines vidéos qui ont circulé, tu sais, sur les réseaux après toujours le match à Milan, où les supporters à la fin du match, quand même, voilà, s'en prenaient aux joueurs. Mais voilà, les joueurs sont évidemment coupables de tout ce marasme et de cette saison, quand même, qui est devenue compliquée, hein, Johan, parce que tu as un entraîneur qui s'en va, un directeur sportif qui va partir, tu as un président qui est contesté. Hein, donc voilà, c'est une saison quand même qui est difficile et tu as un mercato quand même qui n'est pas très productif. Voilà, les joueurs voilà, ont pris cher pour parler un peu de manière un peu plus vulgaire, notamment même au centre d'entraînement. Mais voilà, Mourinho ne peut pas être exempt de tout reproche. Et au niveau du jeu, c'était vraiment compliqué. C'était vraiment devenu compliqué à défendre et tout simplement à regarder. Moi, devant la Roma, vraiment, voilà, je comprenais pas ce qui était proposé. Et vraiment, tu t'ennuyais devant les matchs. C'était devenu très difficile.
Alors, je vais juste donner deux, trois éléments sur le jeu. Bah, évidemment, hein, je souscris tout ce que tu viens de nous dire. Sur la qualité de l'effectif, c'est pas un argument qui est entendable, en fait. Parce que José Mourinho, lors de sa conférence de presse, je pense que c'était avant Milan ou peut-être avant l'Atalanta, nous expliquait que tous ceux qui étaient devant la Roma avaient un meilleur effectif. Mais Bologne n'a pas un meilleur effectif que la Roma. La Lazio n'a pas un meilleur effectif que la Roma.
La
La
Fiorentina,
Fiorentina n'a
non.
pas un meilleur effectif que la Roma. Donc, et après les autres, tu peux discuter. Mais les autres, il en reste plus 50. Donc, que tu sois 9e, c'est vraiment problématique. Il y a aussi un truc sur la qualité de l'effectif, c'est de se demander quels joueurs ont progressé sous José Mourinho. Est-ce que je vais donner des noms? Est-ce que Gianluca Mancini a progressé selon toi sous José Mourinho? Est-ce que Brian Cristante a progressé sous José Mourinho? Est-ce que. Alors après, il venait d'ailleurs, mais peut-être que tu les connaissais ou connaissais pas, mais. Même à Karsdorp, est-ce qu'il a progressé Karsdorp? Est-ce que Spinazzola a progressé sous José Mourinho? Est-ce qu'on peut aller. On peut en faire beaucoup des joueurs de la Roma et se demander s'ils ont vraiment progressé au contact de José Mourinho, en tout cas dans ce que l'on voyait sur le terrain. Peut-être que mentalement, ils l'ont expliqué. Hein. Je me souviens aussi de cette interview de Pellegrini qui en avait fait une
Ouais.
d'ailleurs aussi à DAZN, où il expliquait qu'ils avaient tous progressé, etc. Donc, pas de problème. Ils nous le disent, donc on se doit de les croire. Mais malgré tout, dans les résultats et dans les prestations, ça ne se retrouvait pas. Ça, c'était le deuxième point. Et puis, sur le plan du jeu. Tu sais très bien que tu vas pas prendre un apôtre des belles idées c'est même pas de belles idées parce que ça veut rien dire, mais d'un football offensif, etc. Mais il y a un minimum de. Vraiment, moi j'en étais arrivé à un point de minimum de décence cette saison. Et je trouve qu'on était très très éloigné du niveau qu'on était en droit d'attendre d'une équipe de la Roma et de joueurs comme. Dybala, Lukaku, Pellegrini, Paredes, Spinazzola et beaucoup d'autres. Et juste la dernière chose, c'est que au bout d'un moment, tu sais, le système, comment je l'appelais, le système de Mourinho, je l'appelais le tre-cinque-preghiera. Voilà, c'était un peu l'idée. C'est, alors pour ceux qui ne parlent pas italien, 3-5 et prière. Parce que l'idée, c'était, bah voilà, on a deux lignes, 3-5, et puis on donne le ballon à Dybala et on prie. On prie pour qu'il invente quelque chose. Et ça nous permet d'aller sur sa communication. Guillaume, dernier élément peut-être qu'on peut évoquer de José Mourinho, la communication du technicien portugais qui bon, alors, a passé son temps à critiquer les arbitres. Et voilà, et ça, c'était un vrai problème parce que je pense que malheureusement pour lui et pour le club, ça a eu une influence au fur et à mesure des mois sur les coups de sifflet d'arbitre. Je ne dis pas qu'il ne sifflait pas pour Mourinho, mais cet agacement de se faire critiquer sans arrêt, quelque part dans une situation 50-50 sur le terrain, je ne suis pas sûr que ça ne puisse pas influer psychologiquement sur l'arbitre.
Et ce que je peux te rajouter, Johan, c'est que de ce que je sais, c'est qu'il y a même certains arbitres qui souhaitaient éviter d'aller à Rome. C'est-à-dire qu'ils savaient très bien, et je trouve que c'est Gasperini qui a eu le terme là après le Roma-Atalanta. Et d'ailleurs, tu te rappelles, Palladino aussi, c'était plein après un Monza-Rome. Gasperini a dit qu'il y avait une ambiance de corrida. Et je trouve que c'est un peu ça, tu vois. Et je sais qu'il y a certains arbitres qui auprès des sommets de l'AIA, donc de l'Association italienne des arbitres, demandaient, si possible, à éviter d'aller à Rome parce qu'ils savaient très bien que 29 expulsions pour un staff, que ce soit Mourinho, que ce soit Foti, que ce soit les adjoints, c'est quand même énorme en 2 ans et demi. Et il y avait vraiment toujours un sentiment de, voilà, il y avait toujours beaucoup de colère, beaucoup d'injustice. Voilà, Mourinho, évidemment, alors il a toujours été comme ça, mais voilà, c'est toujours de plus en plus les scènes sur le côté du terrain. Moi, je me rappelle quand tu te rappelles le signe du téléphone, à l'arbitre Pairetto. Parce que son père avait été, on va dire, impliqué à l'époque dans Calciopoli. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de choses qui ont été faites autour de l'arbitrage, de plein de choses. Et voilà, et Mourinho, c'était aussi sa com, tu vas en parler, mais il a beaucoup axé là-dessus pour éviter qu'on parle des résultats, qu'on parle du contenu. Et là où il a été fort, c'est que les supporters, encore aujourd'hui, l'ont toujours défendu et lui disent merci, évidemment, à juste titre pour la Coupe, à la Conference League, pour plein de choses, hein, parce qu'il n'y a pas eu que du mauvais sur l'expérience du Mourinho à Rome. Et à l'époque, il faut rappeler quand même que Mourinho arrive à Rome, c'est une grosse surprise, parce que c'est un grand nom et parce que personne ne s'y attendait. Donc, il y a aussi des bonnes choses, mais il est toujours parvenu à maintenir l'ambiance, le fameux ambiente romano de son côté. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas facile, parce qu'on sait qu'à Rome, les entraîneurs ont souvent perdu un moment la piazza de Rome. Et lui est toujours pas venu à la garder, grâce à sa com.
Juste sur la com, ce que je voulais rajouter quand j'ai parlé de Dybala, c'est que plus les mois passaient également, plus il nous expliquait en longueur, et il nous répétait en longueur, que cette Roma sans Dybala ne valait rien. Et je pense qu'en termes de gestion des joueurs, je ne sais pas si c'est très intelligent de dire sans arrêt que sans Dybala, l'équipe perd beaucoup, que sans Dybala, c'est impossible de jouer au foot, que sans Dybala, il y a moins de créativité, que sans Dybala, il se passe moins de choses. Parce que quand tu es les autres joueurs qui participent à la manœuvre offensive, qu'est-ce que tu comprends de ça? Tu comprends que tu es nul, tu comprends que tu n'es pas bon, tu comprends que tu as un bon à rien, que tu ne peux pas aider l'équipe. Et donc, comme Dybala rate une demi-saison par an, ou allez, on va dire, dans les meilleures années, il rate 25 à 30% d'une saison, quand ces joueurs-là sont amenés à dépanner, sont amenés à porter cette équipe de la Roma, c'est pas étonnant de les voir rater des gestes, c'est pas étonnant de pas les voir en confiance, c'est pas étonnant de les voir en panne de but, de gestes décisifs, parce que simplement leur entraîneur leur montre au quotidien, médiatiquement, peut-être pas à l'intérieur du vestiaire, mais médiatiquement, et ça a une influence, qu'ils ne sont pas bons et qu'ils n'ont pas le niveau de la Roma. Et juste, je voulais rajouter, Guillaume, parce qu'après, on va essayer de faire un petit laïus sur De Rossi.
Ouais.
L'image de la Roma à l'échelle nationale a pris un coup sévère avec José Mourinho, l'échelle nationale, donc à l'échelle de l'Italie. Hein. Pour toutes les questions d'arbitre, tu as bien précisé ce qu'avait raconté Gasperini. Et quand tout le monde te dit que c'est une équipe de bagarre et pas de football, la Roma, ça veut bien dire qu'il y a eu un vrai problème et que finalement, cette équipe-là aujourd'hui a une image bien moins belle, je ne sais pas trop quel adjectif utiliser, qu'avant que José Mourinho ne
moins vienne. Esthétique déjà. Moins
ouais,
esthétique,
c'est ça. Forcément. Alors, moins belle sur le plan du jeu, moins belle même sur le plan du comportement, quelque part.
Et même de la réputation, ouais. Aujourd'hui, quand tu affrontes la Roma, tu sais que Tu sais que ça va être une ambiance de corrida, comme a dit Gasperini.
Et même à l'échelle mondiale, on avait commencé par les belles images, tu sais, devant le Colisée, le bus impérial des joueurs, puis celui avec une autre partie des joueurs, puis celui avec les dirigeants, la foule de supporters de la Roma qui était dans les rues de Rome, 100 000 supporters à fêter la Conference League, les images ont fait le tour de la planète, etc. Un an plus tard, les images qui ont fait le tour de la planète, c'est Mourinho attendant l'arbitre dans le parking de la Puskás Arena après la finale d'Europa League pour l'insulter. C'est les supporters de la Roma à l'aéroport qui s'en sont pris verbalement, quasiment physiquement à l'arbitre le lendemain de la finale. Et donc, l'image de la Roma s'est aussi dégradée très rapidement à l'échelle européenne, planétaire, peu importe à la limite combien de continents on met dedans, Guillaume.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Deux autres choses, juste une, je voulais préciser, pour revenir un peu sur ce que je dis sur les joueurs très rapidement. Rappelle-toi aussi de ces propos après les lourdes défaites, tu sais, sur la scène européenne, quand ils perdent 5-1. Je crois que c'était contre Bodø/Glimt.
C'est 6-1 même.
Un 6-1 où il dit en gros que les joueurs ne sont pas au niveau. Rappelle-toi du caca drop aussi, avec les carabiniers, les gendarmes qui étaient obligés d'aller devant chez lui parce que Mourinho l'avait insulté de traître et que les supporters, du coup, étaient partis devant chez lui pour en découdre. En fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de moments très tendus aussi autour de la période Mourinho parce que, on l'a souvent dit dans ce podcast, on a dit qu'il y avait des bonnes choses, on a dit qu'il y avait des mauvaises, mais avec Mourinho, tout est calculé. Chaque mot, chaque sortie, rien n'est naturel. Et c'est aussi pour ça, et la preuve en est, ça a fonctionné à Rome jusqu'au dernier jour quasiment. Mais voilà, tout est toujours calculé au centimètre près.
Comme appelle le populisme.
Ça a dérapé. Exactement, et ça a souvent dérapé. Et je pense que vraiment, moi, ce qui a fait basculer à un moment, c'est aussi les derbies. Voilà, on en a parlé, mais les derbies, pour moi, à Rome, quand on connaît l'importance, le derby perdu en coupe, ça a été vraiment, je pense, la goutte d'eau qui a fait aussi déborder le vase des Friedkin, hein, parce qu'on sait que c'est une décision de Dan, le propriétaire, qui a décidé de se séparer de Mourinho, et aussi Johan, pour finir, que certains joueurs étaient très attachés à Mourinho, d'autres un peu moins, et je ne trouve pas ça anodin que Smalling ait pris la parole deux, trois jours après son départ, en disant, mais écoutez, moi, je n'ai jamais voulu quitter Rome, parce qu'on sait que Smalling était plutôt critiqué par Mourinho sur sa condition physique, sur le fait qu'il ne se batte pas assez pour revenir, un peu comme Aouar a été critiqué pour sa mentalité, comme Sanchez l'a été pour sa condition. Voilà, il y a eu plein de joueurs qui ont été quand même la cible de certaines piques de Mourinho. Et voilà, Smalling est sorti du silence en disant non, mais moi je vais bien, je veux rester à Rome, je veux revenir, j'aime les supporters. Donc voilà, il n'a pas parlé pendant longtemps, Mourinho s'en va, il sort du silence. Voilà, on peut se douter qu'il y avait quelques problèmes entre Smalling et Mourinho, mais voilà, en tout cas, c'est les deux dernières choses que je voulais rajouter sur le cas du.
Et tiens, ça m'a fait penser à une chose, puisqu'on a parlé un peu de populisme. Ne jamais oublier que Mourinho maîtrise l'art de comprendre là où il met les pieds à chaque fois, de comprendre les sentiments des gens, l'atmosphère dans la ville, l'atmosphère des supporters, l'atmosphère des habitants, ce qu'ils pensent, quelles sont leurs inquiétudes, quels sont leurs désirs, quelles sont leurs colères.
Aussi. Ouais, voilà, là où toucher, tu sais.
Exactement. Et quand Mourinho t'explique qu'on va aller faire la guerre au Club du Nord, que c'est impossible de gagner dans ces conditions-là, face à l'Inter, au Milan, à la Juve, à la Lega, etc., tout ceci est extrêmement calculé. Donc, avant de dire que José Mourinho est un romaniste ad hoc, attention, parce que demain, rien ne dit qu'il ne peut pas aller entraîner un rival de la Roma. Ils ont très vite oublié aussi ce qu'avait dit Mourinho en arrivant à l'Inter sur la Roma, les zero titoli.
Zero titoli, ouais.
Ouais, exactement. Ne jamais oublier qu'il fait ça aussi par intérêt. Peut-être qu'après, il s'est pris au jeu et que je lui concède volontiers qu'il a pu se prendre un peu de passion aussi pour la piazza, les gens qui ont démontré tant d'affection. Mais Mais j'ai eu tendance ces derniers jours à entendre limite que Mourinho était plus romanista que De Rossi. Donc ça fait toujours un petit peu bizarre. De Rossi, justement, Guillaume, parlons-en
Ouais.
un instant. Donc c'est lui qui va s'asseoir sur le banc de la Roma dès ce week-end. Guillaume, c'est un choix courageux des Friedkin. C'est un choix courageux aussi de Daniele De Rossi parce que finalement, lui qui a le statut de légende, qu'est-ce qu'il a à gagner là-dedans?
Bah écoute, moi ça m'a fait penser, tu sais, à d'autres cas un peu similaires qu'on a eu avec d'autres clubs. Moi je me souviens, tu sais, quand Pippo Inzaghi, qui est une légende du Milan, bah, vu sa première expérience en 2014, je crois, ça s'était mal passé au bout d'un an. Seedorf, avec Milan, c'était compliqué aussi. Donc, et surtout quand on connaît, Johan, l'amour qu'a De Rossi pour la Roma, c'est vraiment un lien unique parce que j'ai vraiment l'impression, mais c'est même pas une impression, on le sait, De Rossi vraiment ressent la Roma, il la vit, il la vibre. On sait que c'était, voilà, tu te rappelles, c'était en gros déguisé à un moment pour vivre un derby dans la Curva Sud. On sait que parfois ça lui a joué des tours aussi dans les derbies ou dans certains matchs, ou parfois, voilà, pris par l'émotion, pris par l'aspect émotionnel. Et qui a un côté aussi, ouais, qui a un côté beau, qui a un charme aussi là-dedans. Mais De Rossi, il le vit vraiment. La Roma, c'est sa vie, c'est son cœur, c'est son émotion. Donc, qu'est-ce qu'il a à gagner, honnêtement? Bah, peut-être la confirmation et l'espoir à Johan d'y rester un peu plus que les 6 mois qu'il va faire, un peu moins
Ça me
que six
paraît
mois qu'il va
compliqué.
faire. Moi aussi. Mais imagine, ça se passe bien, tout le monde l'adore. Pourquoi pas avoir une confirmation, voilà, même si je pense que les Friedkin ont un profil plus confirmé et plus, on va dire, avec une réputation plus grande, un peu du style d'Antonio Conte, par exemple. Mais en fait, je pense, Johan, que De Rossi ne pouvait pas dire non à la Roma. Je pense que quand ton club t'appelle et quand c'est une ville comme Rome et quand c'est un club comme la Roma et quand tu es un joueur comme De Rossi qui. Tu sais, je pense que même que De Rossi, il avait un côté plus. Autant Totti, tu le sais, évidemment. Voilà. Mais il n'y avait pas peut-être ce côté, tu sais, vraiment. Enfin, De Rossi, c'est vraiment l'émotion pure de Rome, quoi. Il pouvait vriller à tout moment. Il a la Roma en lui. Et voilà, je pense que pour lui, c'était impossible, du moment que les Friedkin l'ont appelé pour venir dépanner, en gros, de dire non. Je pense qu'il est conscient, parce que c'est quelqu'un d'intelligent de la part de l'énorme risque qu'il prend. Parce qu'on rappelle, Johanna, De Rossi, une expérience à la Spal, voilà, qui ne s'est pas forcément bien passée. Il a été aussi adjoint en sélection. Ben voilà, il y a eu deux, trois expériences, mais c'est vrai que c'est un pari aussi pour la Roma. Mais voilà, je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais est-ce que, moi, la question que je voulais te poser, est-ce que tu penses que c'est aussi un choix un peu populiste, il y a des Friedkin, pour un peu calmer la pièce, et justement parce que, comme tu sais que la pièce adore Mourinho, déjà, tu savais que le choix allait être un peu impopulaire pour une grande partie des supporters. Est-ce que prendre des Rossi, c'est aussi pour dire, attendez, on vire Mourinho, donc énervez-vous, mais on prend un symbole que vous adorez et qui est quasiment impossible à critiquer pour les tifosi de la Roma. Critiquer des Rossi, c'est critiquer ton âme, c'est critiquer l'une de tes légendes, on va dire, ou du moins l'un des joueurs auxquels tu es plus attaché. Est-ce que pour toi, c'est aussi un choix dans cet aspect-là?
Alors, je ne sais pas s'il est populiste, mais je pense que malheureusement pour les Friedkin, si ce n'était pas De Rossi, tu prenais qui? C'est une vraie question parce que tu n'allais pas aller chercher un top entraîneur, il ne viendrait pas à ce moment-là de la saison. Tu es la Roma, tu vas pas chercher un Beppe Iacchini quand même, tu vois? Donc, quel choix s'offrait réellement aux Friedkin à partir du moment où tu disais stop à Mourinho? Je pense qu'ils n'en avaient pas 50. Je pense qu'effectivement, De Rossi a ce côté-là d'être en capacité de tout de suite éteindre le feu provoqué par le départ de Mourinho et calmer un petit peu l'environnement autour du club et notamment les supporters. Je pense aussi que ça amènera un climat plus serein pour les joueurs parce que, tu vois, alors évidemment, je pense à Iacchini, mais peu importe le mec un peu de ce niveau-là hein, que tu mets, premier match à domicile à l'Olympico, tu peux être sûr qu'au bout de 5 minutes, il y a un chant pro-Mourinho, qu'il y a contestation des dirigeants. Là, je pense que même s'il y aura sans doute une banderole que vont se manger les Friedkin, il y aura une banderole sans doute aussi pour José Mourinho. Mais je pense qu'ils ne mettront pas le bordel tout simplement parce qu'ils ont le respect profond pour Daniele De Rossi et qu'ils se diront, si on met le bordel, on met le bordel aussi pour Daniele De Rossi pour son premier match. Donc je pense que c'est aussi, je ne sais pas si c'est entré dans la réflexion parce que pour moi, en fait, c'est une conséquence du choix, mais le choix pour moi, j'en vois pas d'autre. Je ne sais pas si toi, tu avais un nom en tête, mais que ce soit un Italien ou un étranger, un top ne venait pas. Et ensuite, un très jeune entraîneur n'allait pas quitter son poste ou des mecs prometteurs quittaient leur poste en cours de saison pour venir dans cette Roma-là. Enfin, en tout cas, dans une Roma engagée dans une saison compliquée. Donc finalement, qu'est-ce qu'il te restait vraiment comme possibilité? Et juste avant que tu répondes, Guillaume, si tu avais une idée d'entraîneur, je précise pour la Spal qu'il a fait le choix parce qu'il appréciait Joe Tacopina et qu'il appréciait encore, qui est son ami. Il s'était connu puisque Tacopina était dans la première version des dirigeants américains de la Roma, des investisseurs américains de la Roma, et que c'était une très mauvaise décision, que la Spal a été extrêmement mal gérée par Tacopina et c'est pas le premier club qui a connu des soucis avec Tacopina et que il n'a pas réussi à renverser la vapeur de la Spal, mais que c'est très difficile d'en faire une quelconque analyse puisqu'on était sur une saison vraiment quasiment impossible, qui s'est ponctuée d'ailleurs hein, par une relégation bien après le départ de De Rossi.
Mais ouais, pour les noms, Johan, tu sais, après, voilà, sur les intérimaires, tu sais, voilà, on a toujours les mêmes noms qui circulent en Italie. On voit bien ce que donne Mazzarri aussi à Naples.
Eh ouais.
Le choix De Rossi, honnêtement, je le comprends. Sur le court terme, sur ce que ça va apporter, tu l'as dit, la sérénité un peu, ça va amener pour l'après Mourinho, parce que n'importe quel autre entraîneur ou n'importe quelle autre personne aurait forcément été critiqué à la moindre défaite. Là, De Rossi aura quand même un peu de temps, voilà, il a du crédit auprès des supporters, il y a beaucoup de crédit. Et comme je disais juste avant, je pense que les supporters auront beaucoup de mal à le critiquer, donc ils lui diront merci à la fin de la saison si ça s'est passé plus ou moins bien, et même si c'est mal passé, jamais ils diront ouais, De Rossi, il a été nul, il a été mauvais, il manque une part, jamais. Il y aura toujours beaucoup de respect, d'amour pour De Rossi, on le voit hein, sur les premières photos, les premières vidéos. La Roma joue aussi beaucoup sur cet aspect-là, Johanna.
Bien sûr.
On diffuse, on montre les accolades avec les joueurs, on montre De Rossi à Trigoria, les chaînes précises qu'il a dormi là le premier soir. Donc
Et d'ailleurs,
voilà, il y a
Guillaume, t'as
aussi.
remarqué, est-ce que t'as remarqué un truc dans, je sais pas si t'as vu la vidéo. Moi, je les ai pas tous regardés parce qu'il faut pas exagérer non plus, mais tu sais, la vidéo, je sais plus, je crois que c'était de l'arrivée de De Rossi à Trigoria, tu vois, les premières heures à Trigoria, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a... Alors déjà, est-ce que tu l'as vu cette vidéo-là? Ou justement,
Écoute, je l'ai
il
vu.
enlace les joueurs, ou tu vois, il...
Alors, je l'ai vu. Alors,
Est-ce que tu l'as
oui, je
regardé
l'ai vu.
attentivement?
Écoute, je l'ai vu entre deux autres vidéos. J'ai vu quand il enlace les joueurs, quand il arrive, quand il est sur le terrain, voilà, il fait l'entraînement, il crie plus tout. Là, j'ai pas le détail qui me.
Il n'y a rien qui t'a
Dis-moi où
sauté
tu
aux
vas
yeux.
en
Moi,
venir.
il y a un truc qui m'a sauté aux yeux. C'est
Dis-moi où
qu'on
tu vas en
voit
venir,
pour la
Charles.
première fois, je crois, je peux me tromper, et peut-être que des supporters de la Roma me le diront, mais j'en avais pas souvenir, Dan et Ryan Friedkin, clairement dans Trigoria avec leur entraîneur.
Ah, quand ils arrivent dans le couloir tous les trois,
Exactement.
ah oui, quand ils marchent tous les trois
Et
dans le
c'est
couloir.
tout sauf un hasard, ça. Ça, c'est tout
Ouais.
sauf un hasard. C'est la reprise en main du club par les Friedkin, montrer qu'ils sont aux côtés de leur entraîneur. Montrer qu'ils sont impliqués et actifs. Et ça, c'est tout sauf un hasard pour moi en termes de communication, d'avoir mis le président et son fils, vice-président en quelque sorte, du club côte à côte avec l'entraîneur dans les couloirs dès l'arrivée de l'entraîneur au club.
Mais tu vois, j'avais pas, c'est vrai que j'avais pas fait. Bah, j'ai vu la vidéo, j'ai vu cette image des trois qui sont dans le couloir, mais c'est vrai que on les voit souvent en tribune, mais alors c'est vrai que peut-être que les voir à Trigoria, les voir avec De
Mais oui.
Rossi, il y a un côté un peu, voilà, on le soutient. C'est notre décision parce qu'on, voilà, en Italie aussi, il y a beaucoup de discours aussi autour des propriétaires américains et parfois la froideur dont ils font part dans les décisions. Et là, encore une fois, hein, je l'ai un peu abordé tout à l'heure, mais c'était un choix de Dan Friedkin, hein, de se séparer de Mourinho. Voilà, visiblement après, voilà, ils ont discuté et Dan a décidé de s'en séparer. Mais voilà, je pense que dans ce que tu dis, il y a une part de vrai, dans le sens où c'est notre choix, on l'assume, on est là et on avance avec lui. Même si, ouais, en dehors de Trigor, il y a eu, tu sais, les fameux volants qui ont été
Oui.
distribués en disant Fred Keen out. Voilà. Je pense que
Mais tu sais, c'était
ce
les mêmes
choix
qui
du
étaient à
Racing, c'est
l'aéroport
pour
pour
ça.
accueillir Lukaku et qui embrassaient le président de la Roma. Hein.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais voilà, je pense que le choix des Rossi, voilà, disons que ça coche plusieurs cases, hein, qui arrange bien les Fred Keane et qui en soi, regarde Johan, hein, tout à l'heure tu disais qu'est-ce qu'a gagné des Rossi, mais en soi, finalement, regarde qu'est-ce qu'il a à perdre. Bon, on va dire, voir c'est pas un entraîneur confirmé, mais si il ne s'impose pas à la Roma, on va dire, s'il n'est pas confirmé après une saison, on va dire, moyenne, bon, en soi, il restera une légende de la Roma et ça restera un passage mitigé après une saison qui était. Enfin, d'ores et déjà compliqué sous Mourinho. Et au pire, ça se passe bien. Il laissera un super souvenir. Il sera peut-être confirmé. Tu vois, finalement, on prend le problème de l'autre côté. Et finalement, De Rossi a tellement une image importante que
Je sais
je ne
pas si
sais
elle peut pas
pas.
être égratignée un peu cette image,
Bah,
hein, quand même.
figure-toi, c'est la question que je t'ai demandé. Est-ce que selon toi, elle peut être écornée? C'est une question que j'aimerais bien poser pardon, au Tifosi de la Roma. Je sais qu'ils sont nombreux à nous écouter. N'hésitez pas à nous répondre sur
Ouais.
cet argument-là. Est-ce que, imaginons l'hypothèse. De Rossi a des mauvais résultats. La Roma termine, on va dire, alors je fais une bêtise, on va dire 9e, dans le même classement que celui actuel. Est-ce que vous critiquerez De Rossi ou est-ce que vous direz non, mais il est arrivé dans une situation qui n'était plus possible. De toute façon, c'était mal embarqué, donc non. Voilà, on est indulgent et on laisse passer tout ça et ça reste une légende du club, peu importe l'issue de son passage sur le banc. Donc, n'hésitez pas à nous donner vos retours là-dessus parce que je suis assez curieux de savoir un peu le. Voilà le sentiment des diffusés de la Roma.
On est un peu pris par le temps, Guillaume, donc on n'ira pas plus loin sur Daniele De Rossi. Peut-être qu'on se retrouvera la semaine prochaine, Guillaume, pour débriefer le premier match de la Roma. Ça pourrait être
Ouais.
intéressant hein, de voir un peu ce que ça a donné.
Contre Vérone?
Ouais, exactement, notamment parler du jeu, parce que on est sur des idées de jeu qui sont très éloignées quand même de José Mourinho. Jeu plus basé sur du jeu de position, la possession, beaucoup de mouvements offensifs. Plutôt une défense à 4 dans l'idée, même s'il a montré à l'Aspal qu'il pouvait jouer aussi avec une défense à 3. Donc on verra, il y a pas mal de choses à évoquer sur le système, sur le jeu. Une chose est sûre, Guillaume, c'est que il succède à un entraîneur qui expliquait que son équipe ne valait rien sans Dybala. Et lui, dans sa première interview, il a dit qu'il avait des joueurs forts et que l'équipe était forte. Donc ça change en tout cas en termes de discours.
Ça contraste.
Ça contraste clairement, voilà. Donc on aura peut-être moins de chouinerie aussi de la part de Daniele De Rossi, ou j'en doute pas, ce sera difficile de faire pire. Mais pour le reste, pour tout ce qui est de l'aspect terrain, on verra un petit peu ce qui se passe. Et juste bon, bien repréciser, parce que c'est vrai que je l'avais oublié quand même au tout début, hein. Mourinho a fait deux finales européennes consécutives avec la Roma, et il a une séance de tir au but. Certains diront une main non sifflée dans la surface par l'arbitre Taylor, de gagner deux finales consécutives. Et là, peut-être que le bilan est un petit peu différent. Pas sur le jeu, pas sur la saison en cours, mais il aurait eu encore un peu plus de crédit, je pense, avec une deuxième Coupe d'Europe remportée. Et ça, il fallait quand même évidemment le confirmer en fin d'émission. Voilà, Guillaume, pour ce qu'on voulait débriefer rapidement hein, sur ce changement d'entraîneur à Roma, José Mourinho s'en va, Daniele De Rossi arrive, et maintenant on va voir un petit peu ce qui va se passer sur le terrain. Ça va être très intéressant
Ouais,
de
ouais.
voir ce que va donner cette Roma de Daniele De Rossi, comment vont se comporter les joueurs, les supporters, les dirigeants, l'entraîneur même, quel sera l'accueil, on imagine qu'il sera plutôt triomphal quand même pour Daniele De Rossi dès ce week-end. Avec ses supporters. Et puis nous, on se retrouve très rapidement. On essaiera peut-être, hein, Guillaume, en fonction de nos agendas, peut-être de se faire un petit débrief de ça, du premier match de la Roma, un petit format court sur ce débrief-là. Et puis, on se dit à très vite. Hein, n'oubliez pas les 5 étoiles sur Spotify, les 5 étoiles sur Apple Podcast, calciopp.shop, le partage, voilà.
Les commentaires,
Des
le bouche à
commentaires.
oreille,
Le bouche à
Johan.
oreille, manger des pâtes, évidemment panettone et plus que pandoro, mais ça Guillaume ne sera pas d'accord.
ce que je voulais faire, Johan, en fin de podcast, quand même, c'était remercier le YouTuber Talk Max Football qui nous a
Exactement.
mentionné dans les podcasts foot qu'il recommande auprès de sa communauté. Donc,
Ouais.
merci parce que voilà, c'était une bonne surprise. Donc, voilà, Talk Max
Il a
Football sur
recommandé
YouTube.
5 podcasts et je cite les autres quand même de tête. Il y
Oui,
a
bah voilà.
Alternative Football. il y a le Big Five, et c'est là où je pense. Il y a l'Afterfoot de RMC. Et il m'en manque un, si c'est Jeux en triangle, qui est un concept très sympa d'ailleurs, que je vous conseille d'aller écouter également. Donc on remercie évidemment ce YouTuber de Talk My Football. Allez voir un petit peu aussi le travail qu'il fait, hein, parce que nous, il nous a mis en avant. Donc allez voir le travail qu'il fait sur sa chaîne YouTube. De mémoire, je crois qu'il a fait une vidéo sur Mourinho aussi. Je l'ai vu juste avant qu'on débute l'enregistrement.
Ouais, Mourinho est l'entraîneur du passé.
Voilà, donc allez regarder un petit peu tout ça. Ce sera sans doute un bon complément à ce qu'on vient de faire. Et puis nous, Guillaume, on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode du podcast Calcio et Pépé. À très vite.
Ciao à tutti.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.